Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers des partages d'expériences, à travers des modes de vie différents, à travers le voyage notamment. Donc sur ma route, beaucoup de voyageurs. Hier soir, à l'Institut français, il y avait Catherine, Pénélope et Céleste qui étaient présents. Nous a rejoint Greg aujourd'hui. Donc dans cette émission, on va parler voyage, mais pas que. On va parler voyage en famille, on va parler éducation. Éducation sur les routes du monde. Donc voilà, je me retrouve avec une famille, deux petites filles, deux parents qui sont partis pour plusieurs mois. Je crois que vous en êtes à votre 12e ou 13e mois de voyage. Donc on va peut-être revenir à l'origine de ce projet. Qui c'est qui a envie de me raconter un peu cette aventure un peu folle, cette envie de tout quitter pendant plusieurs mois?
Bon, bah, c'est un projet qu'on avait toujours eu dans nos têtes, Greg et moi. Je pense que en fait, le voyage, déjà, c'est ce qui nous a rassemblés, puisqu'on s'est rencontrés alors qu'on était chacun en train de faire un tour du monde. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et nos routes se sont croisées en Birmanie. Et pendant plusieurs jours de suite, on s'est suivis entre Mandalay, Ngapali. Et puis, finalement, on s'est parlé. Et puis, les chemins nous ont séparés, mais on s'est retrouvés. Et donc on est parti ensuite faire un tour du monde ensemble il y a 15 ans. Donc ça c'était en 2007-2008. Et on est reparti 13 mois tous les deux. Donc on avait fait un tour du monde chacun de notre côté, durant lequel nos routes se sont croisées. Un second, donc juste après s'être mariés, qui était un peu notre voyage de noces. Et puis, quand on a eu les filles, ça nous a semblé comme une évidence qu'on allait repartir en voyage, cette fois en famille. La question, c'était quand, puisque le Covid nous a un peu freiné dans notre élan. Ça a ralenti, mais finalement, c'est très bien parce que Céleste et Pénélope ont 8 et 10 ans aujourd'hui. Et on pense que c'est un bon âge pour voyager.
Donc là, c'est pour vous, parents, le troisième tour du monde.
Eh oui.
Ok, alors avant de parler de ce troisième tour du monde en famille, j'ai peut-être quand même passé rapidement sur les deux premiers. Donc toi, Greg, est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre en chemin pour faire un tour du monde le premier?
Oui, c'est l'envie de découvrir, l'envie d'aventure. J'ai toujours été fasciné par ça, en histoire, par la période des grandes découvertes ou des choses comme ça. J'avais simplement l'opportunité d'être libre totalement. Et c'est ça qui m'a poussé à partir, découvrir le monde, me changer la tête, voir aussi comment c'était ailleurs et pas rester cantonné dans mon monde, dans mon microcosme, puisque chacun vit dans une forme de microcosme quand on a un quotidien. Et donc c'est ça qui m'a poussé, c'est l'envie d'ailleurs et l'envie de voir des choses différentes, être capable probablement aussi d'élargir mes schémas de pensée avec d'autres référentiels que ceux que j'avais eus pendant mon enfance ou pendant mes études.
Alors là, vous avez tous les deux expérimenté les trois modes de voyage différents, à savoir solo, en couple et maintenant en famille. Donc j'imagine que d'un tour du monde à un autre, c'est plus du tout la même donne.
Non, c'est très différent. Je dirais que pour moi, le premier tour du monde, le tour du monde seul, enfin, que j'avais fait quand même avec une amie que j'avais rencontrée pour le tour du monde, était plus un voyage, je dirais, au jour le jour, au gré des rencontres. Forcément, quand on est seul, c'est la liberté totale en fait, de choisir son chemin. Les rencontres se font assez naturellement. Puis c'est un petit peu les rencontres qui guident le voyage. Et bon, notre fil rouge, c'était d'essayer de rencontrer des ONG en Asie du Sud-Est, donc ça nous avait aussi permis de faire pas mal de rencontres dans la région. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on avait envie de revenir dans le coin. Après, en couple, ce qui était formidable, c'est qu'on passait nos journées à discuter. Donc une discussion qui commence un matin, elle peut se poursuivre pendant plusieurs jours comme ça. Et finalement, c'était le couple. Là, ça commence, on rencontre un peu moins de monde, je dirais, quand on est en couple, parce qu'il y a cet univers du couple. On a notre vie à nous, donc voilà. Mais finalement, on a encore pas mal de liberté quand on est en couple, pas mal de temps. Et puis là, en famille, c'est encore autre chose, parce que là, en famille, en plus, comme on est parti quand même 18 mois, on a besoin de faire l'école. Donc ça nous prend quand même un petit peu de temps. Ça nous prend quand même 2 à 3 heures par jour en moyenne. Donc ça, c'est une contrainte. Et puis, il y a toute l'organisation. Je crois que quand on est en famille, on a envie aussi de bien choisir les endroits où on va. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi éducative, de vouloir montrer le monde aux filles, donc d'aller dans des endroits différents, de se frotter à différents modes de vie, différentes cultures. Donc tout ça s'organise quand on veut faire un voyage un peu plus aventurier. Je dirais que notre voyage en couple a probablement été le voyage le plus aventureux, puisqu'on est allé passer du temps en Papouasie, par exemple. Donc on a vraiment accédé aux limites du monde, aller rencontrer des ethnies, aller vraiment loin. Là, on a toujours ce goût de le faire, mais c'est vrai qu'en famille, on se pose aussi la question de la sécurité, le confort. Enfin, on essaye de le faire, mais dans un schéma peut-être un petit peu plus cadré. Et c'est vrai qu'on essaye quand même, parce que nous, l'aventure, c'est quelque chose qui nous rassemble, qu'on a envie de vivre et de faire vivre aux filles. Du coup, on essaye d'apporter cette dimension dans notre voyage aussi, en allant dans des endroits, des contrées un peu plus reculées, des endroits où... il y a moins de monde, qui sont moins explorés, où on va avoir un petit peu plus cet esprit d'aventure et où on va avoir, nous, un peu l'impression d'être des aventuriers. Récemment, on était en Amazonie. Greg avait organisé ce voyage. On est parti en Équateur et on est allé vivre dans une tribu d'Amazonie pendant une grosse semaine. Et il a fallu 2 jours de pirogue pour y arriver. Donc là, vraiment, c'était loin. À un moment, on s'est demandé si on n'allait pas carrément un peu trop loin, même si on prenait peut-être pas trop de risques. Mais en fait, on a vraiment passé un moment exceptionnel dans cette tribu. Je pense que les filles s'en souviendront. Elles ont passé beaucoup de temps avec les enfants du village, à jouer, etc. Et on a pu partager leur vie, vraiment comprendre en fait comment, à la fois comment les gens vivent en fait au fin fond de l'Amazonie, et également quels sont leurs enjeux. Et ça, ils ont pu, on a eu la chance parce qu'il y en a qui parlaient espagnol, donc on a pu échanger avec eux et c'était extrêmement riche de comprendre les problématiques liées à la protection de l'environnement, la défense des droits de ces tribus qui restent encore, les contacter, les non contacter, etc. On a vraiment été plongé dans leur univers. Et ça, c'était passionnant, je crois, à vivre en famille.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je vous donne bientôt la parole, mais pas tout de suite. Je continue un peu avec papa. Donc dans les voyages, on a parlé d'aventure, il y a aussi le fil rouge des ONG, découvrir les différentes initiatives locales. Donc quand on voyage comme ça souvent, apparemment, pour aller loin, s'éloigner de tout, est-ce qu'il y a un projet derrière, peut-être d'écriture, de photographie, de film, voilà, qu'est-ce qui vous anime dans cette envie d'aller le plus loin possible ?
Pour cette fois-ci, on a mis cet aspect-là de côté. Ça a été très présent lors de notre deuxième voyage, puisqu'on a consacré quelques mois à faire du bénévolat auprès d'ONG. On a été obligé de jongler avec des contraintes. Catherine en parlait, la contrainte de l'école, ce genre de choses. Le fait aussi d'avoir une forme d'incertitude dans le programme, puisque nous on est parti dans une période où le Covid était encore très présent, nous a un peu limité dans notre capacité à préparer, à organiser ce genre de choses. Donc c'est quelque chose, enfin la partie ONG, bénévolat, aide, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment fait avec les filles. Je dirais que pour ce voyage, notre objectif principal, il était principalement de les ouvrir à d'autres modes de vie, d'autres réalités économiques, spirituelles, en termes de raisonnement, etc. Et c'est ce sur quoi on a axé avant d'aller découvrir des initiatives dans des écoles ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas ponctuellement, mais c'est moins organisé. On constate qu'il y a des familles qui arrivent à le faire. Nous, sincèrement, on a du mal parce qu'on trouve qu'on est déjà bien occupé, bien débordé avec tout ce dont on a à s'occuper. Donc j'avoue que jusqu'à présent, on a été limité sur cet aspect.
Donc Pénélope, vas-y, présente-toi, dis-moi quel âge tu as. Dis-moi un petit peu deux, trois choses sur toi que tu as envie de partager.
Bonjour, je m'appelle Pénélope, j'ai 8 ans et je suis en train de faire un tour du monde de 18 mois avec mes parents et ma sœur. Et je suis très contente de le faire parce qu'on découvre plein de pays, plein de choses, plein d'animaux, de nouveaux gens et des pays qu'on n'est jamais allé, c'est le but. Mais le truc, c'est qu'avec le Covid, en fait, on ne peut pas aller partout. C'est-à-dire en Chine, on veut y aller, mais on ne peut pas parce que les barrières sont fermées, il paraît.
Est-ce que tu te rappelles quand tes parents t'ont parlé de ce projet de partir avec ta sœur faire un tour du monde ? Qu'est-ce que ça a fait dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que t'étais contente ? Est-ce que t'avais peut-être peur parce que t'allais laisser toutes les copines derrière toi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand on t'a dit « tiens, on va partir tous les quatre faire un tour du monde sur 18 mois ?»
Ça m'a fait... J'étais excitée, mais j'avais aussi peur parce que... En fait, j'étais excitée parce que j'étais allée dans pas mal de pays, mais pas tellement non plus. Et j'avais peur parce que je me demandais, on va plus voir personne de la famille et on va plus voir aucune copine et on va quitter le pays pendant 18 mois, du coup plus d'un an. J'avais jamais fait plus, enfin si un peu plus d'un mois, mais pas plus d'un mois en dehors du pays, du coup ça m'a fait quand même peur.
Peur, mais t'étais quand même contente. T'as pas dit non, moi je veux rester à la maison.
Non, parce que je voulais aller découvrir le monde. Mais j'aurais pu dire non parce que avant je pensais que j'allais voir personne de la famille pendant 18 mois, mais j'en vois parce qu'on fait des pauses et parfois après les pays. Parce que parfois on passe 4 mois, du coup il faut bien faire une pause après 4 mois.
Céleste, donc toi Céleste, vas-y présente-toi.
Bonjour, je m'appelle Céleste, j'ai 10 ans. Je suis assez contente de faire le tour du monde parce que on découvre plein de nouvelles choses, plein de beaux paysages et c'est un moment en famille, genre mes parents ne travaillent plus, donc on peut passer beaucoup de temps ensemble. Nous on a quand même l'école à faire, mais bon, parfois c'est un peu compliqué, mais quand on passe rapidement, c'est assez bien. Mais parfois, l'école c'est un peu dur parce qu'on n'est pas vraiment dans des endroits confortables. En Afrique, par exemple, on a été dans des endroits pas hyper confortables. Et c'était pas très confortable, donc j'avais du mal à me concentrer. Et voilà.
On va en parler après de l'école sur les routes du monde, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que l'école est obligatoire. En fait, non, c'est l'instruction qui l'est. Mais quand on commence à voyager, on se rend compte que c'est le quotidien de plusieurs familles, en fait, qui partent comme ça avec leurs enfants et qui font du homeschooling. Je crois que c'est école à la maison, c'est comme ça qu'on dit en français. Donc toi, Céleste, même question que ta sœur, quand t'es partie, ça t'a fait quoi ? T'avais envie ou t'avais envie de rester en France parce que les copines, la famille ? Comment ça t'a fait en toi quand on t'a annoncé que vous alliez partir tous ensemble pendant 18 mois ?
Quand mon père m'a dit que j'allais nager avec des requins en Polynésie française, ça m'a quand même fait un peu peur. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour me baigner avec des requins et une baleine, quoi ? Donc je me suis un peu, ça m'a fait un peu peur, mais je me suis dit, mais c'est quand même bien de découvrir le monde, de voir d'autres pays, de voir des tribus, bref, de voir plein de choses différentes. Comme par exemple, quand il m'a dit qu'on allait nager avec des requins en Polynésie française, j'avais eu peur et je me suis dit que je voulais pas trop y aller. Mais après, quand je suis arrivée en Polynésie française et que j'ai nagé avec les requins, ça m'a plus du tout fait peur parce qu'il y avait plein de coraux et tout, donc je prêtais même plus attention que c'était des requins, quoi.
Et mais ça fait des différences énormes avec vos copines, parce que là, du coup, comment ça se passe, les retours, vous vous revenez avec des étoiles plein les yeux, vous racontez tout ça, vous arrivez à partager vos voyages avec vos copines?
Bah oui, par exemple, quand on est revenu dans notre école à Abu Dhabi, et bah on a fait des présentations, par exemple, la première fois après la Russie, on a fait un mois dans la Russie, parce que le visa ne nous permettait pas plus. Mais sinon, on a fait une petite présentation. Par exemple, on s'est baigné dans le lac Baïkal pendant 3 secondes. Et ouais, on a pris le transsibérien pendant un train qui fait tout le tour de la Russie pendant 7 jours, je crois. Mais ça, c'est drôle. Et après, on est revenu après l'Afrique. On a fait une autre présentation. Mais quand on est revenu après, bah, ils étaient tellement occupés. Les copines, elles étaient bien, elles prêtaient attention. Mais elles se disaient, t'as pas le temps de faire la petite présentation, quoi. Donc genre je pars un peu longtemps, donc parfois elles s'en souviennent pas hyper beaucoup de moi, mais sinon c'est bien de retrouver les amis et tout.
Si j'entends bien, la maison, c'est à Dubaï, c'est ça. Donc il y a déjà aussi tout un parcours d'expatriés depuis des années.
Exactement, ça éclaire peut-être ce que je disais tout à l'heure dans notre souhait de leur faire découvrir autre chose. C'est vrai qu'on a vécu avant le voyage cette année aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi et à Dubaï, qui on a adoré, mais avec un mode de vie très particulier, très luxueux. Et les filles, elles, sont nées là-dedans. Donc c'était important pour nous de leur montrer que dans le monde, on peut vivre dans d'autres conditions, froides, par exemple en Russie en hiver, où on est allé, moins aisé financièrement, et qu'on peut être heureux. Donc c'est une des raisons qui a motivé notre voyage. Et pour revenir sur la réaction des filles quand on leur a annoncé le voyage, leur première réaction, c'était vraiment elle était vraiment très positive, mais elles se sont tout de suite imaginées dans un hôtel sur pilotis aux Maldives. Donc on a dû leur expliquer que si on souhaitait que ça dure un certain temps, il fallait probablement aller dans d'autres genres de pays et d'autres genres d'hébergement, parce qu'on n'aurait pas les moyens de faire plus de 2 semaines aux Maldives. Et voilà, et du coup, c'est pour montrer l'évolution qu'elles ont eue. Ceci dit, aujourd'hui, après un an de voyage dans des hôtels pas toujours luxueux, elle serait peut-être plus motivée que jamais pour aller aux Maldives, mais néanmoins, voilà, il y a quand même un chemin qui a été parcouru depuis notre départ quant à leur compréhension du monde, à leur manière de percevoir les possibles, en fait, parce que ce sont les possibles pour les gens qu'on rencontre dans le monde, et ça devient impossible pour elles-mêmes, pour leur futur.
Ouais, je comprends aussi qu'elles ont eu donc une éducation dans les écoles françaises, hein, elles n'ont pas forcément grandi en France.
Non, pas du tout. Aux Émirats, les deux ont été scolarisés dans des établissements suivant un cursus britannique. Ça s'est fait comme ça parce que tout simplement quand on est arrivé, il n'y avait plus de place dans les écoles françaises et il y avait des places qu'en crèche anglo-saxonne. Et puis on y a trouvé notre intérêt et donc elles sont restées dans ce type d'établissement jusqu'à ce qu'on parte évidemment en voyage. Où là, en revanche, on les a basculés dans l'école à distance, dans le système français, en prévision potentielle de notre retour en France cette fois-ci.
L'éventuel potentiel retour en France. Donc en fait, les filles, vous êtes parfaitement bilingues aussi.
Oui.
Ce qui est plutôt pas mal en voyage.
Ouais, par contre, moi et ma soeur, on est nés en France. J'avais 2 ans quand on est parti, ma soeur avait 6 mois, donc on a quand même vécu en France. Mais on n'a pas fait d'école. Mais quand on arrivait à l'école anglaise, ça m'a quand même fait un peu bizarre. Mais maintenant, quand je vais dans l'école française, ça fait un peu bizarre aussi. Ça fait parce que j'ai jamais vraiment fait de l'école française. Mais je parle quand même aussi bien français qu'en anglais.
Quand j'écoute ton papa, donc il explique que vous avez grandi dans du luxe, hein, dans une belle maison entourée d'expats. Et l'idée, c'était aussi à travers ce voyage, vous montrer d'autres modes de vie. Vous espériez peut-être aller sur la plage aux Maldives dans un hôtel 5 étoiles et vous découvriez quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre comme vie. Comment ça se passe pour toi quand tu vois d'autres enfants de ton âge qui n'ont pas du tout les mêmes réalités?
Je me dis que c'est un peu triste parce qu'ils devraient quand même avoir une opportunité. Enfin, comme nous, on est allés en Polynésie française, c'est un peu comme les Maldives. Mais on n'a pas fait un hôtel sur pilotis. Mais c'était, je pense, aussi bien. Mais parfois, il faut avoir des opportunités. Mais c'était triste pour eux de ne pas avoir la chance d'aller quelque part bien, quoi.
Et qu'est-ce qui est dur pour toi dans le voyage? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis non, là vraiment, c'est trop dégueulasse, je veux pas, ou c'est trop difficile? Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de péter un plomb et de faire complètement autre chose et de retourner à Abu Dhabi ou de retourner à Dubaï?
Oui, surtout sur l'école. Quand papa n'arrête pas de me gronder parce que j'ai plein de fautes d'orthographe ou de choses comme ça, c'est surtout sur l'école. Sinon, parfois quand je me sens pas très confortable, par exemple en Amazonie, qu'on était dans le bateau, qu'il pleuvait, on a fait 2 jours de bateau. Alors, à un moment, il pleuvait, on n'était pas du tout confortable. Et quand on arrivait au camp, mes parents, à un moment, là, je regrettais. Mais dès qu'ils nous ont dit qu'on allait avoir une surprise, parce qu'on a tenu les 2 jours de bateau avec la pluie, là, je me suis un peu réconfortée, quoi. Mais c'était quand même pas très du tout confortable, parce qu'on a été mouillés dans le bateau, il y avait plein d'eau, on avait des imperméables, mais ils n'étaient pas super, quoi. Mais c'était pas très confortable. Et aussi, en école, on va aller en Inde, et peut-être qu'en Inde, quand je vais manger un truc très épicé, je vais peut-être regretter d'y être, mais bon, je pense pas.
C'était quoi la surprise après 2 jours de bateau?
Moi, en fait, c'est pas vraiment une surprise, c'est... Quand t'as envie d'acheter quelque chose, ils te l'achètent pour toi. Parce que normalement, on a de l'argent de poche. Et du coup, c'est nous qui nous l'achetons. Mais comme là, c'est la surprise, c'est eux. Moi, en fait, c'est une sarbacane. Ça s'utilise pour chasser. En fait, c'est comme un bambou. Non, en fait, comme un bout de bois avec un trou. Et en fait, tu prends une flèche, tu mets du coton sur la flèche et tu souffles. Ça va sur un animal et ça, après ça tue, mais qu'avec du poison.
Mais donc c'est toi qui devais chasser pour nourrir tes parents et ta sœur?
Non, parce que je l'ai eu avant qu'on parte et il n'y a pas de poison. Du coup, je peux pas tuer. Et mais quand même, je peux crever un œil parce que si je lance comme ça avec quelqu'un devant moi, ça va quand même pouvoir casser un bras ou crever un œil.
Et toi, ta surprise à toi, c'était quoi alors?
J'en ai eu plusieurs. Moi, c'était une flèche. J'avais une flèche avec des plumes de perroquet. Oui, elle est en bout de bois, bien sûr. Mais quand je la lance, elle va très loin et elle se pique directement dans le sol, ce que j'aime bien. Sinon, j'ai eu des doudous. Et j'ai eu aussi qu'on est parti en avion de l'Amazonie parce que c'était trop dangereux. Puisqu'il y avait des tribus non contactées et que si elles volent quelqu'un, ils le tuent, quoi. Donc c'était dangereux, donc on est retourné en avion. C'était une grosse surprise pour moi.
Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes de parents pour emmener vos enfants dans des tribus non contactées où on risque sa vie ?
C'était pas prévu. Hein. On s'est même fait la réflexion que si on avait su ce que ça impliquait, le fait d'aller aussi loin, voir des communautés aussi reculées, on n'y serait peut-être pas allé. On cherchait à aller dans des coins un peu reculés, essayer de trouver une forme d'authenticité pour montrer quelque chose de vraiment différent. Si on n'avait pas anticipé ça, effectivement, on était à 48 heures de voyage non-stop dans une pirogue étroite et qui ne s'arrêtait pas de nuit avec des arbres qui peuvent renverser la pirogue, les orages tropicaux et surtout effectivement le fait de traverser des territoires occupés par des tribus non contactées, ce qu'on ne savait pas et ce qui revêt quand même un danger certain dans la mesure où si on est coincé, ce qui nous est arrivé plusieurs fois, et qu'on tombe sur ces tribus, il y a de fortes chances qu'elles nous attaquent, donc ça représente un danger assez important, ce qui fait qu'effectivement, une fois arrivé dans la communauté où on était, il y a eu une évaluation qui a été faite et le choix a été fait de nous extrader, de nous évacuer par air, par un petit avion charter qu'on appelle par la radio et qui peut se poser sur un bout de terrain déboisé. Et c'est le choix qui a été fait parce que voilà, c'est bien d'aller dans des coins reculés, mais il faut nous on est quand même vigilants normalement à la sécurité. En l'occurrence, on s'est retrouvé dans cette situation, ça s'est bien passé, tant mieux. Notre souhait est pas de tenter le diable à tout prix.
Catherine, comment vous choisissez vos destinations ?
Il y a des destinations qui sont des rêves dans chacune de nos têtes. Par exemple, la Russie, on y était en janvier l'année dernière. Emmener les filles dans le Transsibérien, c'était un rêve. Hein. Moi, j'avais pris le Transsibérien il y a déjà 20 ans et c'était resté un souvenir impérissable. Et donc, retourner en Russie, cette fois en hiver, et traverser la Russie l'hiver, ça pour moi, c'était un rêve. Donc, c'était le numéro 1. Alors, on a eu de la chance de pouvoir y aller en janvier dernier, parce que maintenant, c'est plus possible d'y aller. L'Afrique, faire un road trip en Afrique, c'était aussi quelque chose qu'on avait envie de faire. L'Afrique, c'est une région qu'on n'avait jamais explorée auparavant, ensemble, pendant nos voyages. Ni seul, ni en couple. Donc faire un road trip, être en overlander, comme on dit, hein, on avait notre Toyota Hilux avec une tente, une cellule et une tente sur le toit. Donc on campait vraiment au milieu des animaux, ça c'était vraiment quelque chose qu'on voulait absolument faire. Donc c'est comme ça, ce sont des rêves, comme l'avait été le fait d'aller en Papouasie quand on est parti en voyage en couple. En fait, il y a des destinations comme ça qui font rêver. Pour moi, c'était aussi une destination comme la Mongolie, par exemple, ou l'Amazonie. Hein. Ça, c'est vraiment, je pense qu'au fond, on a des esprits d'exploration, en fait. Hein. On aime aller voir comment c'est là où... Alors, il y a de moins en moins de lieux comme ça, mais aller là où personne ne va et où on va être un peu les premiers à avoir quelque chose à rencontrer. C'est peut-être un peu égoïste, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça qui nous drive. On a peut-être trop lu de littérature d'aventure en étant jeune. Mais ouais, aller dans des endroits complètement différents. Je crois que moi, ce qui m'amène à choisir les lieux, c'est la diversité culturelle, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, avec la globalisation, il y a un aplanissement en fait des différences entre les différentes cultures. Je le vois, là, on est à Luang Prabang, au Laos. Je suis venue il y a 20 ans. La ville a quand même beaucoup changé. On retrouve des choses qui avaient toujours cette zénitude chez les Laotiens, je dirais plus dans l'état d'esprit. Mais en fait, De plus en plus, on voit que la civilisation avance. Les Chinois viennent de construire un train ici. Il y a des magasins de téléphones portables, etc. Donc en fait, il y a une uniformisation des cultures dans le monde et qui va à l'encontre, en fait, moi, de mon envie de voyage et de ce que je cherche en fait pendant le voyage. Et donc du coup, inexorablement, ça pousse à aller plus loin. Et dans des endroits un peu plus reculés pour essayer de trouver ces différences. Et parce que moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse de l'humanité, sont toutes ces différences, en fait. On est tous humains, mais et on a des questions philosophiques qui sont les mêmes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a la naissance? Pourquoi? Il y a des questions philosophiques qui nous rassemblent. Mais finalement, des cultures différentes et des manières de s'habiller différentes, des croyances, etc., des manières de se nourrir, etc. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse. Et c'est de plus en plus difficile, en fait, à appréhender. Et voilà, je crois que c'est ça qui me drive. Et c'est ce que j'ai envie de montrer aux filles.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.